franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, sur les traces d'un oiseau chanteur migrateur, donc la rousserolle turdoïde. Et nous entendons son chant. 67% des espèces d'oiseaux chanteurs migrateurs dépendant des zones humides sont menacées d'extinction. Et pour les conserver, il faut commencer par protéger ces milieux humides où ils passent l'hiver et donc les répertorier. Et bien, c'est ce qu'a réussi à faire une équipe d'ornithologues de l'université de l'Utah en suivant par géolocalisation l'incroyable migration de la rousserolle turdoïde. Il en ressort que près de la moitié des zones humides importantes pour leur conservation sont peu ou pas protégées. Et on en parle avec vous, Maxime Zucca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue à Nature Paris, auteur de La migration des oiseaux, c'est un livre paru aux éditions Sud-Ouest. Près de la moitié des zones humides prisées par cette espèce d'oiseau chanteur migrateur sont peu ou pas protégées. C'est une menace très importante pour la conservation de ces oiseaux.
C'est déjà extrêmement important de parvenir à le quantifier. On s'intéresse jusque-là souvent aux zones d'hivernage ou aux zones de nidification des oiseaux migrateurs, assez peu aux espaces sur lesquels ils passent leur halte pendant la période de migration. Et c'est souvent des zones qui sont critiques en termes de survie, d'énergie pour ces oiseaux qui font de très très longs voyages.
Oui, combien de kilomètres possibles alors pour ces espèces?
La rousserolle turdoïde, là les oiseaux qui sont étudiés venaient de Turquie, mais ceux qui viennent de Russie un petit peu plus au nord font plutôt de l'ordre de 15-16 000 kilomètres aller-retour.
Sur ce grand parcours, donc entre la Turquie et le sud-est de l'Afrique, les ornithologues ont identifié à peu près 277 zones humides. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut hiérarchiser pour mieux protéger, il faut s'intéresser un peu plus à ces haltes.
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont surtout identifié des zones sur lesquelles toutes les rousserolles turdoïdes équipées de ces géolocalisateurs s'arrêtaient. Et une partie de ces zones n'était pas du tout protégée. Donc là, du coup, si l'on souhaite pouvoir un petit peu hiérarchiser les politiques de conservation des zones humides en Afrique ou au Moyen-Orient sur ces zones de halte migratoire, ça donne une idée des priorités. Donc là, c'est principalement des sites situés le long du détroit de Bab el-Mandeb, entre le Yémen et Djibouti, des sites situés dans le sud de l'Irak et des sites situés au Kenya, frontière avec la Somalie.
Qu'est-ce que ça a comme incidence sur les oiseaux quand ces sites de halte ne sont pas suffisamment protégés? Et puis qu'est-ce que ça veut dire, pas suffisamment protégés?
Alors, comme incidence, ce qu'on appelle ces sites de halte majeurs, c'est des endroits par lesquels les oiseaux vont être obligés de transiter parce qu'autour, il y a soit des déserts, soit des montagnes peu hospitalières, soit la mer. Et ils se retrouvent dans cette sorte d'entonnoir, des petites zones humides, souvent méconnues, souvent un petit peu reculées. C'est la raison pour laquelle elles ne sont souvent pas protégées, simplement parce qu'elles n'ont pas forcément été, leur importance n'a pas forcément été soulignée jusqu'à présent. Et donc évidemment, crucial pour des oiseaux avant de reproduire une longue période de vol, parfois 5, 6, 700 km sans pouvoir s'alimenter. C'est là, sur ces sites, qu'ils vont pouvoir se nourrir et c'est de la bonne qualité de ces sites que va dépendre le succès de leur migration. Ensuite, pour pouvoir bien les protéger, il y a plusieurs manières de faire. Soit on décide de faire l'équivalent d'une réserve naturelle ou un parc national, soit simplement au moins attirer l'attention de l'importance de ce site auprès des populations locaux, des gouvernements locaux, pour au moins prendre en compte dans les activités humaines locales, sans pour autant tout interdire, l'importance de ces zones humides et donc pas, par exemple, créer un barrage juste en amont de celle-ci.
Ouais, parce que rares sont les personnes, j'imagine, à savoir que ces zones particulières sont des haltes absolument primordiales pour ces oiseaux.
C'est ça, en général, ce sont des marais, des roselières qui sont plutôt perçues comme hostiles, qu'on a tendance à drainer pour être cultivées. C'est souvent en plus dans des zones assez arides d'Afrique, dans lesquelles il y a des besoins d'irrigation importants de l'agriculture, donc il faut arriver à concilier ces usages, et il y a malheureusement parfois des choix qui doivent être faits en termes de zones à protéger. Donc ce genre d'étude permet vraiment de déterminer les sites prioritaires.
Donc là, ces chercheurs ont suivi les haltes de la rousserolle turdoïde qu'on a entendu chanter tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez présenter cet oiseau?
À quoi il ressemble, oui.
Alors, c'est une sorte de grosse fauvette, toute brune, qui vit dans les roselières, avec un gros bec, de très longues ailes, des grosses pattes. Elle pèse environ 27 grammes, donc ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup pour un petit passereau.
D'accord.
On en a un petit peu, même pas très loin de Paris, qui se reproduit dans certaines des zones humides d'Île-de-France. Il y en a plus si on va en Camargue, en Brenne, dans l'est de la France, en Lorraine. Chez nous, les rousserolles turdoïdes vont migrer plutôt vers l'Afrique de l'Ouest. Les populations d'Europe de l'Est vont migrer vers l'Afrique de l'Est. Elles vont, une fois arrivées en Afrique, une fois après avoir traversé le Sahara, hiverner sur deux zones différentes en fonction des saisons des pluies. Elles vont profiter de la première saison des pluies au sud du Sahel ou en Afrique, en tout cas subsaharienne, en octobre-novembre. Et puis en novembre, elles vont se redéplacer vers l'Afrique du Sud pour effectuer leur deuxième partie d'hivernage. et ensuite vont revenir au printemps suivant à nouveau chanter sur nos zones humides.
Ouais. Et pourquoi cet oiseau en particulier était un bon candidat pour cette étude alors ?
Justement parce qu'il est suffisamment grand, il pèse 27 grammes et... Pour les petits oiseaux comme ça, on ne peut pas encore mettre de GPS intégré, c'est trop lourd, les batteries pèsent trop lourd. Du coup, on leur met ce qu'on appelle des géolocalisateurs, mais ils pèsent tout de même 1 gramme. Et il ne faut pas dépasser 5% du poids d'un oiseau, ça fait déjà beaucoup en sac à dos.
C'est ça. 5% donc on leur pose vraiment sur le dos ?
On leur voilà, on fait un petit harnais avec des petits fils autour de chaque cuisse, on l'attache sur le bas du dos et l'oiseau ne peut pas le retirer. Par contre, c'est un inconvénient majeur, c'est qu'il faut le recapturer l'année suivante lorsqu'il revient chanter sur le même site. En général, les oiseaux sont très fidèles à un site de reproduction.
Ils sont combien à partir comme ça en voyage en général ?
La rousserolle turdoïde, toute la population de la rousserolle turdoïde, par exemple, est migratrice. Donc c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'individus en Europe.
Et on arrive à trouver l'individu qui porte le bon capteur.
Et ben, comme il va revenir exactement sur le même site, là par exemple, sur un site donné, on aura peut-être que 10, 20, 30 rousserolles turdoïdes. Si on les a presque toutes équipées, effectivement, on en recapture en général 15, 20%, c'est de cet ordre-là.
Ça doit être un moment d'appréhension quand on retourne comme ça sur le site de nidification pour voir quels sont ceux qui ont gardé ce petit outil qui va permettre d'avoir tellement d'informations.
Lors d'une étude qu'on a menée sur le bruit ortolans, cette année en Russie et les années précédentes, c'était exactement la même chose. Et on arrivait à retrouver des bruits ortolans qui étaient revenus et qui portaient leur géolocalisateur. Mais encore faut-il parvenir à les recapturer une fois qu'on les a vus. Ils sont beaucoup plus méfiants l'année suivante une fois qu'ils se sont fait prendre une fois. Et ensuite, il faut en plus que le géolocalisateur ait fonctionné, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on a au final assez beaucoup de pertes.
Ce géolocalisateur, justement, il passe pas par satellite. Comment ça fonctionne ?
Alors, il mesure la lumière solaire, donc la durée relative du jour et de la nuit. Avec cette information, on peut connaître la latitude. À une date donnée, si on sait qu'on a 9 heures de nuit, on saura à peu près la latitude. Et comme il a aussi une horloge intégrée, basée sur un temps universel de zéro, on peut connaître le décalage horaire et donc un petit peu la longitude. Ça nécessite de le recalibrer régulièrement, de faire un certain nombre de calculs. Et on a une précision de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres de la localisation de l'oiseau.
Maxime Zucca, lors de ces longues migrations, il y a beaucoup de haltes de la part de ces oiseaux, justement. Est-ce qu'ils se posent souvent ?
Il se pose, pour des oiseaux comme cette rousserolle turdoïde, elle va se poser à peu près tous les 500-600 km de vol. Donc elle va faire une grande étape de nuit, comme ça, pendant 10 heures, voler à 50 km/h avec un vent arrière. Et elle va se poser 4, 5, 10 jours parfois si le site est très favorable, ou au contraire moyennement favorable, le temps de reconstituer suffisamment de réserves pour la halte suivante. Donc ça va être de l'ordre d'une 10-15 de haltes.
Une dernière question, Agnès ?
Oui, la zone où niche cette rousserolle turdoïde dans l'est de la Turquie est menacée par un projet de barrage. Ça peut faire partie de votre métier d'ornithologue de sensibiliser des responsables politiques justement à la survie des espèces.
En ce qui me concerne, ça fait partie de mon métier en France. Dans d'autres pays, justement, on a beaucoup plus de difficultés à intervenir, mais c'est au moins par ce genre de publication, bon là ce sont des chercheurs américains, mais qui vont donner un petit peu de grain à moudre aux associations locales, aux ornithologues locaux. En France, on est aussi confronté régulièrement à ce genre de problème, à des grands projets d'aménagement qui se font au détriment de zones humides ou de zones d'importance pour la conservation des oiseaux. Bon, c'est un sujet en général, les naturalistes, les ornithologues sont relativement écoutés, ensuite les intérêts économiques parfois prennent le dessus malgré tout.
Ah bon ?
L'importance de sensibiliser les différents acteurs justement autour de ces oiseaux. Merci de nous avoir fait connaître donc la rousserolle turdoïde Maxime Zucca. Vous étiez à la Une de la Science aujourd'hui, Agnès, merci.
Merci.
Et à demain.
À demain.
Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le lion des cavernes, qui était l'un des plus gros félins de tous les temps, bien jusque-là, on attribuait sa disparition il y a environ 16 000 ans au réchauffement climatique. Mais des chercheurs de l'université de Cantabria avancent un autre scénario, université espagnole. C'est l'homme du paléolithique supérieur qui a chassé le lion des cavernes, c'est ce qu'ils affirment dans un article paru dans la revue PLOS ONE. En examinant 9 os fossilisés d'orteils de ces mammifères, ils ont pu démontrer une exploitation de l'animal par l'homme qui taillait ses os avec des outils en pierre. Les chercheurs supposent que l'homme récupérait aussi leur peau. Les preuves ne sont pas définitives, mais ce dont on est certain, c'est que le lion des cavernes et l'homme étaient en compétition et qu'ils partageaient les mêmes proies. Fumer tue, on ne cesse de le répéter, mais comment et par quel mécanisme ? Dans une étude parue dans Science, des chercheurs ont passé au crible 5000 tumeurs et ont comparé les cancers des fumeurs avec des cancers de personnes n'ayant jamais fumé. Ils ont analysé les mutations dans l'ADN des cellules pulmonaires des personnes ayant fumé ou non. Le résultat est édifiant. Fumer un paquet de cigarettes par jour pendant une année, entraîne 150 mutations dans les cellules pulmonaires, des dommages génétiques qui sont autant de possibilités d'entraîner un cancer. Et puis en Chine, un nouveau barrage a été construit pour contrer les crues régulières du fleuve Bleu. Et il est mobile, ce barrage, avec 87 piliers et des panneaux aussi étanches qu'un sous-marin. Cette infrastructure de plus de 200 mètres de long a été conçue par un institut de recherche indépendant. Il est rapidement montable et démontable et peut contenir une crue d'un mètre, à condition d'être couplé avec un système de prévention des crues performant et de pouvoir être édifié à temps.